Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au programme de ce dimanche 22 mai. Avec vous, Jean-Noël Ducasse. Et au cours de cette émission, le journal, les sports, le personnage de la semaine, un petit retour sur les élections fédérales en Australie et la deuxième partie de l'interview avec Patrice Lecomte sur son film Maigret, qui sort sur le grand écran en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce dimanche 22 mai, le leader travailliste Anthony Albanese et le nouveau Premier ministre en Australie, les Verts sur la bonne voie pour remporter 2 sièges dans le Queensland, les Teal Independents pour la plupart des femmes font une percée historique dans les circonscriptions clés du Parti libéral en remportant plusieurs sièges. Anthony Albanese est le nouveau Premier ministre australien et seulement la 4e personne à diriger les travaillistes au gouvernement depuis l'opposition, depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien que son poste de Premier ministre soit certain, il est moins clair si le Parti travailliste sera en mesure de gouverner tout seul ou s'il aura besoin de l'aide d'un crossbench élargi. S'adressant à près de 1000 fidèles du parti hier soir dans le centre-ouest de Sydney, Anthony Albanese a déclaré qu'il était ému, touché par la victoire.
Now, I said during the campaign that I've been underestimated my whole life. Now, while that's all is true, I've also been lifted up by others who saw something in me and who encouraged me in life on this journey.
Peter Dutton deviendra probablement le prochain chef de l'opposition du pays après que le Premier ministre Scott Morrison ait annoncé qu'il allait se retirer après avoir reconnu sa défaite électorale. Le trésorier Josh Frydenberg, présenté comme futur leader, risque de perdre son siège au profit de l'indépendante Monique Ryan après avoir subi un revirement d'opinion de plus de 10% contre lui. Alors que Scott Morrison a annoncé qu'il démissionnerait de son poste de chef du parti, il prévoit de continuer en tant que député pour le moment. Il a également exprimé sa fierté d'avoir conduit l'Australie à surmonter les difficultés de ces dernières années.
What Australians have endured over these past few years has shown a tremendous depth of character and resilience and strength. And each and every day, I've had the great privilege to lead this nation over the last more than 3.5 years. And the one thing I've always counted on has been the strength and resilience and character of the Australian people. It has been the Australian people under the strong support of a strong government that has enabled all of us to come through to where we are today.
Penny Wong, sénatrice du Parti travailliste, deviendra la nouvelle ministre fédérale des Affaires étrangères. Elle déclare qu'une victoire travailliste rapproche le pays de la réalisation de la promesse de la déclaration de Uluru qui vise à établir une voix des Premières Nations au Parlement inscrite dans la Constitution. Penny Wong déclare que la victoire travailliste est la victoire de l'espoir.
Australians have chosen. Australians have chosen and they have chosen change. Australians have chosen and they have chosen hope. Australians have chosen and they have looked to the future. A better future for all.
Les Verts restent sur la bonne voie pour une victoire électorale historique. Le parti espère gagner 2 sièges dans le Queensland, dont Ryan, détenu par les libéraux, et Griffith, détenu par les travaillistes. Les postal votes et les votes avant le scrutin devant être comptés. Le chef des Verts, Adam Bent, a déclaré que l'élection était un mandat pour le changement climatique et les inégalités.
You've seen how much of an issue it was for people, and I think there was a real attempt from Liberal and Labor to bury it as an election issue, and we were really clear about the need to tackle climate by tackling coal and gas.
Les candidats indépendants se préparent à avoir un impact considérable sur le prochain Parlement. Le trésorier Josh Frydenberg fait face à un défi de taille de la part de Monique Ryan à Kooyong, dans le Victoria. En Nouvelle-Galles du Sud, l'indépendante Kylie Tink a pris le siège du député libéral Trent Zimmerman à North Sydney, tandis que Sophie Scamps pourrait gagner contre Jason Falinski à McLella. La députée indépendante Zali Stegall, qui devrait conserver son siège de Warringah, a déclaré hier soir que le revirement d'opinion contre la coalition, en particulier sur la question du changement climatique, était évident.
The feedback very much was people are really frustrated. Cost of living issues, but also climate change simply did not feature in the policies and the platforms from the major parties, and in particular from Scott Morrison. It's like he forgot that over the last 3 years we were ravaged by bushfires and floods, and somehow that was swept under the carpet.
Allegra Spender a, quant à elle, remporté le siège de Wentworth à Sydney.
I certainly hope it shows that you can't ignore women anymore. And I think it's saying in a really positive way, that in a very constructive way, we want the Parliament to represent our community in its fullest terms. We want the Parliament to be the best of us, to treat and work with everyone with respect. These are the values that the community seeks, and this is what I think people are seeking in the Parliament and have stood up for.
Sally Situ du Parti travailliste devrait devenir la députée de Reid après avoir battu la députée libérale Fiona Martin dans une bataille controversée après que Madame Martin a été accusée d'avoir confondu Madame Situ avec une autre asiatique australienne. La nouvelle députée de Reid est d'origine chinoise et ses parents ont fui le Laos à la suite de la guerre du Vietnam. Elle a grandi dans la banlieue ouest de Sydney, ce qui, selon elle, a contribué à façonner ses valeurs et ses convictions.
I stand before you tonight from the heart of multicultural Sydney in Reid. This community has voted for fairness, for integrity in government, and for a better future for all.
Voilà pour les élections fédérales. Ailleurs dans le monde, le président turc Recep Tayyip Erdogan a eu des entretiens avec la Finlande et la Suède au sujet de leur candidature pour rejoindre l'OTAN. Les préoccupations de la Turquie concernant le soutien présumé des pays nordiques aux groupes anti-gouvernementaux turcs ont été abordées. La Turquie attend des mesures concrètes pour répondre à ces préoccupations et exige la levée de l'embargo sur les exportations d'armes imposées à la Turquie après son incursion en Syrie en 2019. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son armée avait infligé de graves dommages aux forces armées russes malgré la chute de Mariupol, qu'il dit que l'Ukraine reprendra. Il a déclaré cependant que ce serait difficile et que la diplomatie devrait suivre. La Russie affirme avoir détruit dans le nord-ouest un important envoi d'armes fourni par l'Occident. Reportage de Daniel Vallot pour RFI.
Selon le ministère russe de la Défense, c'est un arsenal très important d'armes et d'équipements militaires qui a été détruit ce samedi par des missiles tirés depuis la mer Noire. Le convoi d'armement fourni par les pays occidentaux se trouvait près de la gare de Malines, dans la région de Jytomyr, et était à destination des forces ukrainiennes dans le Donbass. L'armée russe affirme également avoir frappé des dépôts de pétrole sur le littoral de la mer Noire, non loin de la ville d'Odessa. Ces annonces interviennent alors que le président américain a définitivement adopté annoncé ce samedi une aide massive pour l'Ukraine, 40 milliards de dollars au total. L'enveloppe, très importante, prévoit notamment l'achat de véhicules blindés et de systèmes de défense anti-aérienne à hauteur de 6 milliards de dollars. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président ukrainien n'a pas manqué de remercier son allié américain. Le soutien du président Biden contre l'agresseur russe est crucial, écrit en anglais et en ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette aide est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Fin de citation.
Les conséquences de cette guerre en Ukraine avec la Serbie visée par une vague d'alerte à la bombe. Laurent Rouy à Belgrade pour RFI.
134 écoles de la ville de Novi Sad, toutes les écoles de niche, respectivement deuxième et troisième ville du pays, mais aussi plusieurs centres hospitaliers ont été visés hier par ces alertes à la bombe qui arrivent par mail et proviennent apparemment d'une dizaine de pays, dont l'Ukraine et la Russie. À chaque fois, la police est obligée d'évacuer, de fouiller les lieux. Jusqu'à présent, aucune bombe n'a été découverte, mais les cours sont interrompus, les commerces proches subissent des pertes économiques, la circulation est arrêtée. Il y a 5 jours, Belgrade était visée par ces attaques qui avaient bloqué les écoles. Tout a commencé en mars dans les avions d'Air Serbia, la seule compagnie européenne à encore voler à destination de Moscou. Les alertes étaient quotidiennes et les retards sur ces vols vers la Russie tels que la compagnie avait dû en réduire la fréquence. Le président Vučić et son ministre de l'Intérieur parlent de pression et de guerre hybride contre la Serbie, l'un des rares pays européens à ne pas avoir sanctionné la Russie. Ils affirment aussi avoir demandé l'aide d'Europol.
En France, Catherine Colonna est la nouvelle ministre des Affaires étrangères. Elle succède à Jean-Yves Le Drian, qui a assumé les fonctions depuis 5 ans. Jean-Yves Le Drian se réjouit de la défaite du Premier ministre australien Scott Morrison.
Et puisque je parle d'Indo-Pacifique, je ne vais pas m'empêcher de dire que la défaite du Premier ministre Morrison me convient très bien. Parce que Les actes posés à l'égard de la France, au moment où ils ont été posés, étaient d'une brutalité, d'un cynisme, et je serais même tenté de dire d'une forme d'incompétence notoire, et ça me fait plaisir de vous le dire ce soir, et je ne sais pas si il a pensé à la concordance ou la concomitance des dates, mais s'il y a pensé, c'est bien pour lui, s'il n'y a pas pensé, ben c'est tant pis pour lui. J'espère que nous pourrons renouer avec l'Australie un dialogue franc et constructif dans l'avenir. En tout cas, je le souhaite, Madame la Ministre.
L'Organisation mondiale de la santé travaille sur de nouvelles orientations pour les pays sur la façon d'atténuer la propagation du monkeypox, alors que les cas pourraient encore augmenter dans les mois à venir. La théorie du World Health Organization, basée sur les cas identifiés jusqu'à présent, est que l'épidémie est provoquée par un contact sexuel. Le monkeypox est une maladie infectieuse dans certaines parties de l'Afrique occidentale et centrale. Il se propage par contact étroit, ce qui signifie qu'il peut être relativement facilement contenu grâce à des mesures telles que l'auto-isolement et l'hygiène une fois qu'un nouveau cas est identifié. Le docteur Daniel Bosch de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene affirme que l'épidémie ne sera pas le prochain Covid.
I do not think monkeypox has any ability to cause a pandemic because it is an inefficient transmitter, because it is not contagious during the incubation period, because we have the smallpox vaccine that is a tried and true countermeasure to stop these outbreaks.
Un mot sur le Festival de Cannes avec ce nouveau film suédois qui est dans la course à la Palme d'Or. Il s'appelle Sans filtre. Elisabeth Le Quéré, RFI.
Can you relax your triangle of sadness? That's like between your eyebrows here.
Okay. Il y a 5 ans, Ruben Östlund offrait au festivalier de Square, une satire du monde de l'art contemporain, et décrochait dans la foulée la Palme d'Or. 5 ans plus tard, le regard qu'il porte sur ses contemporains est toujours aussi acéré. Sans filtre, suit les pas d'un couple d'influenceurs invités à participer à une croisière 5 étoiles pour milliardaires. Après quelques jours au régime caviar-champagne, tout bascule, le yacht subit une tempête homérique, puis est attaqué par des pirates. Les quelques survivants se retrouvent sur une île déserte où toutes les hiérarchies vont s'inverser. Les super riches ne devront leur salut qu'à la débrouillardise d'une femme de ménage. Sans filtre est une fable cynique sur l'argent, une comédie cinglante qui montre l'humanité sous un jour désespérant. Non sans un certain sadisme, le cinéaste met ses personnages dans des situations de plus en plus outrancières et grotesques. on suffoque un peu et on se prend à penser que même les super riches méritaient mieux que cette plongée grand-guignolesque dans l'horreur.
Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 24 degrés. Adélaïde, 21. Melbourne, 14. Hobart, 14 également. Canberra, 16. Sydney, 20. Brisbane, 21. Cairns, 29. Darwin, 34. Et à Alice Springs, un maximal de 23 degrés. Un rappel des grands titres de ce 22 mai. Le leader travailliste Anthony Albanese est le nouveau Premier ministre en Australie. Les Verts sur la bonne voie pour remporter 2 sièges dans le Queensland. Et les Teal Independents, pour la plupart des femmes, font une percée historique dans les circonscriptions clés du Parti libéral en remportant plusieurs sièges.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le Giro, la 14e étape hier remportée par Simon Yates. Richard Carapaz est le nouveau maillot rose de ce Tour d'Italie. Le Giro, c'est tous les soirs à la télévision SBS. On passe au foot avec Kylian Mbappé qui signe et reste avec le Paris Saint-Germain.
Je suis très content de continuer l'aventure. De rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison.
La Ligue des Champions avec la victoire des Lyonnaises contre les Espagnols du FC Barcelone, 3 buts à 1. Frédéric Suto pour RFI.
Ah oui, quel match des Lyonnaises, quel début de match, une première demi-heure époustouflante. Alors, on avait beaucoup parlé, Christophe, avant cette finale, de celle de 2019 à Budapest, quand Lyon avait puni dès le début, en 30 minutes, les Barcelonaises en inscrivant 4 buts. Eh bien, elles ont remis ça, les Lyonnaises, aujourd'hui, 3 ans plus tard, ici à Turin. Au bout de 33 minutes, elles menaient 3-0 face à une équipe de Barcelone, championne d'Europe en titre, hein, cette fois, le sacre de l'emploi passé face à Chelsea. Personne n'imaginait un tel scénario. Les Catalanes faisaient même figure de favorite, mais Lyon a frappé très très fort. Et avant les buts d'Ada Hegerberg, la Norvégienne, et de Macario, le but qui a tout déclenché, cette folle soirée, celui qui a réveillé des cauchemars chez les Barcelonaises, c'est le but d'Amandine Henry dès la 6e minute, une frappe surpuissante qui est allée se nicher dans la lucarne de la gardienne Sandra Paños. Amandine Henry, hein, qui était là en 2011 pour la première Ligue des Champions du club. Elle est encore là, 32 ans, et elle nous raconte ce but incroyable.
Je vois que le ballon est entre deux, donc je tacle. Et puis après, je vois qu'il y a de l'espace, je pousse le ballon et puis je tente ma chance. Et je vois directement qu'elle prend la bonne direction. J'ai même pas attendu qu'elle soit rentrée complètement, que ça y est, je savais plus où j'étais, je savais plus où courir, et j'ai voulu fêter avec toute l'équipe. Et à ce moment-là, franchement, je ne me suis même pas posé de questions.
Boubacar Camara, qui joue pour Marseille, sélectionné pour la première fois pour représenter les Bleus pour la prochaine Ligue des Nations qui débute bientôt. Écoutez Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.
Il est là de par Boubacar Camara, de par ce qu'il réalise avec son club dans un registre bien particulier, même si c'est lié d'absence d'autres joueurs et la blessure de Paul Pogba notamment. J'étais déjà confronté à des joueurs qui ont cette liberté-là, puisqu'ils sont binationaux, d'avoir le choix. À aucun moment, je ne l'ai fait et je ne le ferai, de sélectionner un joueur pour l'empêcher d'avoir le deuxième choix. Mais à partir du moment où le joueur a une position qui est très claire, à savoir son objectif, c'est d'être international français, il n'y a pas de discussion à avoir, mais évidemment, je fais en sorte d'avoir cette réponse-là avant de réfléchir et de pouvoir choisir ou pas choisir.
Et on passe à la Ligue 1 en France, la 38e journée avec la victoire écrasante du PSG contre Metz, 5 buts à 0. Monaco et Lens ont fait match nul, 2 buts partout. Et l'OM qui écrase Strasbourg, 4 buts à 0 et repasse à la deuxième place au classement général. Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Et à 30 secondes de la fin de saison, après 37 matchs, 99% du 38e, Monaco était encore dauphin du PSG, sauf que voilà, le Rocher s'est effondré à Lens, un but in extremis du Camerounais Ganago, de partout, ça ne change rien pour les Lensois, en revanche ça change tout pour les Monégasques qui voient les Marseillais leur repasser devant sur le gong grâce à une belle victoire 4-0 contre Strasbourg. L'OM, vous l'avez dit, deuxième, directement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Monaco devra passer par des tours préliminaires toujours très piégeux. Ils avaient d'ailleurs échoué l'été dernier. Un peu plus bas, c'était chaud aussi, mais Rennes sauve finalement sa quatrième place grâce à un nul de partout à Lille et surtout une égalisation en toute fin de match du Guinéen Guirassy. Ça permet donc d'écarter la menace de Nice qui, après sa victoire 3-2 à Reims, échoue donc à la cinquième place, synonyme de Ligue Europa Conférence. Enfin, tout en bas du classement, Bordeaux a sauvé l'honneur, mais pas sa place en Ligue 1. Victoire 4-2 des Girondins à Brest, qui n'empêchera pas leur descente en Ligue 2. Ils sont accompagnés dans la charrette par Metz, battu donc par le PSG 5-0. Saint-Etienne, qui a fait match nul un partout à Nantes, finit 18e. Saint-Etienne devra passer par un barrage contre Auxerre pour rester dans l'élite.
On passe au tennis, le tournoi de Roland-Garros, et à partir de ce dimanche, le point avec Eric Mamrut pour RFI.
Le roi de la terre battue boite et c'est Roland-Garros qui s'emballe. Oui, sans doute pour la première fois depuis son accession au trône parisien en 2005, Rafael Nadal, 13 fois vainqueur, n'est pas cette année le favori incontestable du tournoi. Car son incroyable début de saison 2022, marqué par un 21e titre du Grand Chelem remporté en Australie, a été brutalement stoppé au printemps. Par une fissure à une côte en mars qu'il a écarté des cours durant 6 semaines et par l'aggravation d'un mal qui touche depuis toujours son pied gauche. Cette douleur chronique et incurable ravivée à Rome la semaine dernière et qui a entraîné son élimination dès les 8e de finale. Conséquence, avec seulement 5 matchs disputés dont 2 défaites, c'est avec la préparation la plus courte de sa carrière que Rafael Nadal aborde ce Roland-Garros 2022. Sans repère, sans certitude et avec un pied d'argile, faut-il d'ores et déjà enterrer l'Espagnol de bientôt 36 ans? Surtout pas, nous dit la nouvelle directrice de Roland-Garros, l'ancienne numéro 1 mondiale tricolore Amélie Mauresmo.
Alors je vais vous dire, je me souviens de l'édition de 2020 et pour moi ça a été vraiment une grande leçon sur les pronostics qu'on pouvait faire et sur la bonne ou insuffisante préparation de Rafael Nadal avec des conditions de jeu qui étaient censées ne pas l'avantager. Il est arrivé à très peu de matchs derrière lui sur terre battue et que sur une terre plutôt lourde. Il faisait froid fin septembre, début octobre. Le toit qui était fermé plus souvent qu'il était ouvert, des balles qui étaient plutôt lourdes pour lui, il n'a pas perdu un set de la quinzaine. Donc moi, je vais vous dire, avec Rafael Nadal, j'arrête les pronostics, je sais qu'il est là, et quand il est là, généralement, ça se passe plutôt bien pour lui.
L'an dernier, toutefois, Rafael Nadal avait été stoppé en demi-finale par Novak Djokovic, le numéro 1 mondial que l'Espagnol pourrait cette fois retrouver dès les quarts de finale. Un Serbe vainqueur dimanche dernier du Masters 1000 de Rome, de retour au premier plan, lui qui a connu un début de saison traumatisant avec son expulsion rocambolesque de l'Open d'Australie. Novak Djokovic, qui voudra égaler le record de Nadal de 21 grands chelems remportés, sera l'un des favoris de ce Roland-Garros, avec le finaliste de l'an passé, le grec Stefanos Tsitsipas, l'allemand Alexander Zverev, dans une moindre mesure le russe Daniil Medvedev, récemment opéré du dos, et surtout Carlos Alcaraz, la nouvelle star du circuit. Son impressionnante maturité, son talent hors pair, lui ont permis de remporter 4 tournois cette année, dont les Masters 1000 de Miami et de Madrid.
Et maintenant, un coup de projecteur sur les Français. On est toujours en compagnie d'Éric Mamrut.
Les Français, eux, ne figurent pas parmi les favoris de cette édition. Après le forfait sur blessure de Gaël Monfils, et pour la première fois dans ce siècle, aucun d'entre eux, en effet, n'a hérité d'un statut de tête de série. À moins d'une surprise, le public français se concentrera donc sur les adieux de deux de ses mousquetaires. Gilles Simon et Joe Wilfried Tsonga, 37 ans, vont en effet disputer leur tout dernier Roland-Garros. Ce sera même l'ultime tournoi pour le Manceau, qui, même s'il a hérité du coriace norvégien 7e mondial Casper Ruud comme adversaire au premier tour, est heureux de terminer sa carrière à Roland-Garros. Joe Wilfried Tsonga.
Je me sens à la fois soulagé de savoir que c'est le dernier, parce que j'ai mon esprit et mon corps qui me disent que c'est l'heure d'arrêter, et à la fois très excité. J'ai toujours adoré jouer ici à Roland, ça a toujours été un moment très important dans ma carrière. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur le court. Je vais rencontrer un joueur qui est très bon, qui est très consistant. Je sais que ça va être un match dur d'avance. Mais voilà, je suis heureux de pouvoir vivre ça. Et quoi qu'il arrive, pour moi, ce sera une fête.
Suspense et émotion au programme donc de la quinzaine chez les hommes. Chez les dames, en revanche, une seule et grande favorite, la numéro 1 mondiale Iga Świątek. Elle vient de remporter ses 28 derniers matchs. La Polonaise de bientôt 21 ans, déjà sacrée en 2020, dont l'idole est incertain. Raphaël Nadal.
Et puis, sachez qu'il y avait des tournois jusqu'à hier avec le Norvégien Ruud qui a remporté le tournoi de Genève. Le Britannique Norri s'est imposé à Lyon et l'Allemande Angélique Kerber qui s'est imposée à Strasbourg. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Les élections fédérales en Australie, Scott Morrison a reconnu sa défaite. Aux élections d'hier, Anthony Albanese devient le 31e Premier ministre australien. On notera un fort soutien pour les indépendants et un revirement d'opinion marqué contre la coalition à travers le pays. Un dossier de NACA, SBS News and Current Affairs. Scott Morrison a donc concédé la défaite samedi soir même.
Tonight. It's a night of disappointment for the Liberals and Nationals, but it's also a time for coalition members and supporters all across the country to hold their heads high. We have been a strong government. We have been a good government. Australia is stronger as a result of our efforts over these last three terms.
Les Australiens ont voté pour les indépendants, les Teal Independents, qui défendent l'environnement, l'égalité des sexes et la lutte anticorruption. Le libéral Trent Zimmerman a concédé son siège de North Sydney face à l'indépendante Kylie Tink. Simon Birmingham, le libéral, a déclaré sur ABC que la campagne sur les femmes transgendres menée par le Premier ministre et sa candidate Catherine Deaves a nui à la campagne de la coalition.
Liberals whose values, I believe, is what their electorates are looking for, but are being punished because the party and they are being punished by association with candidates in adjacent seats and in Trent's case, there is no more adjacent seat than North Sydney and Warringah. So you're seeing a real contagion effect.
L'ancienne journaliste de ABC, Zoe Daniel, a également remporté une victoire dans le siège traditionnel du Parti libéral de Goldstein à Melbourne contre le député sortant Tim Wilson. Zoe Daniel a déclaré que ce que son équipe a réalisé est extraordinaire.
100 or so years ago, there was a woman called Vida Goldstein. She was an internationally renowned suffragist. She was the first Australian in the Oval Office. She ran as an independent several times. Vida was not elected. This seat is in her name. And today I take her rightful place.
La députée indépendante Zali Steggall a déclaré sur l'ABC que les résultats montrent que les principaux partis ne peuvent pas prendre le vote du public pour acquis. La perte d'un siège que le Parti libéral détient depuis des décennies est une préoccupation évidente pour de nombreux modérés du parti. Le libéral Simon Birmingham a déclaré sur ABC qu'il y avait une leçon à tirer.
It's a clear problem that we are losing seats that are heartland seats that have defined the Liberal Party for generations. And so if we lose those seats, and it's not certain that we will, but there is clearly a big movement against us, and there is clearly a big message in it.
Les Verts ont également bien fait avec davantage de votes dans les sièges de Griffith et Ryan à Brisbane. La députée travailliste Terry Butler pourrait, alors que je vous parle, perdre son siège à Griffith. Le Parti des Verts a mené une campagne acharnée dans le sud-est du Queensland qui a récemment été ravagée par de fortes inondations. Écoutez le chef Adam Bent.
The Greens are on track to be the most powerful third party in the next parliament. I'm seeing so many people tell me that they're voting one Greens for the first time because they want to kick this terrible government out.
Jim Chalmers, qui sera le nouveau trésorier du Labour, est prudent concernant les résultats sur les quelques sièges qui restent à pourvoir.
I think there's a handful of seats that are still could go either way and would make the difference between a Labour majority or otherwise.
L'adjointe au maire de Fairfield et réfugiée vietnamienne Dai Le gagne le siège de Fowler contre la travailliste Christina Keneally qui a été, je cite, parachutée dans ce siège dans le sud-ouest de Sydney. Ce fut une décision controversée car Christina Keneally a remplacé l'avocate locale, la travailliste Tu Lee, et ainsi reçoit une leçon de la part des groupes multiculturels appelant les travaillistes à soutenir des candidats issus de milieux culturels et linguistiques divers. Christina Keneally a parlé aux fidèles du parti dans son électorat.
And I do want to congratulate Dai Le and Courtney Nguyen on the campaigns that they ran.
Ce dossier de NACA, SBS News and Current Affairs, de Krish Hani Dan, présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French. Nous revenons à présent, comme chaque dimanche, sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler aujourd'hui, nous sommes avec Léo Roussel. Bonjour à vous, Léo.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Et vous allez nous parler aujourd'hui d'Elisabeth Borne, nouvelle première ministre choisie par le président français Emmanuel Macron. Une femme à la tête du gouvernement en France, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé.
Oui, 30 ans précisément, c'est la durée qu'il aura fallu attendre pour voir une nouvelle femme occuper le poste de première ministre en France. La dernière, c'était Edith Cresson, qui avait été nommée de 1991 à 1992. C'était sous le mandat de François Mitterrand et c'était jusqu'ici l'unique femme à avoir occupé la fonction. Elisabeth Borne est donc la seconde. Elle a été nommée lundi par le président Emmanuel Macron, qui lui avait été réélu le 24 avril dernier pour un nouveau quinquennat. Elle succède à Jean Castex, qui avait lui-même pris la suite d'Édouard Philippe en juillet 2020, en pleine crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Elisabeth Borne aura donc la charge de mener le troisième gouvernement, déjà sous la présidence d'Emmanuel Macron, le premier de ce nouveau quinquennat.
Qui est Elisabeth Borne et quel a été son parcours jusqu'à l'hôtel Matignon ?
Eh bien, pour une première ministre, Elisabeth Borne a un profil qu'on pourrait qualifier de plutôt atypique. On la présente plutôt comme une technocrate, plus qu'une pure politicienne, un descriptif qui tient la route quand on regarde son parcours. Elisabeth Borne naît à Paris le 18 avril 1961, de parents qui travaillent dans un laboratoire pharmaceutique. Son père, Joseph, est juif d'origine polonaise. Résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il est déporté et connaît notamment l'enfer du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Il en revient en 1945 marqué et prend le nom de Born lors de sa naturalisation en 1950. Il décède en 1972, Elisabeth Born a alors 11 ans. Elle devient pupille de la nation, un statut grâce auquel elle obtiendra une bourse d'études. Après un parcours scolaire en somme toute classique, c'est lors de son cursus universitaire que se dessine véritablement son profil de technicienne. Elle intègre l'école polytechnique en 1981, puis elle est diplômée de l'école nationale des ponts et chaussées. Elle est donc ingénieure et son parcours se mêle à la politique à la fin des années 1980. Elle intègre le ministère de l'équipement en 1987, puis elle sera conseillère au ministère de l'éducation, d'abord sous Lionel Jospin, puis sous Jacques Lang. En 1997, elle retrouve Lionel Jospin, alors Premier ministre, et devient sa conseillère technique chargée des transports. Les transports, c'est un thème qui va la suivre pour le reste de sa carrière, puisque son premier poste dans le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe en 2017, c'était celui de ministre chargé des transports.
Elisabeth Borne a déjà un parcours riche en politique. Elle a aussi connu plusieurs postes hors des gouvernements.
Oui, et toujours dans les transports, ou presque, de 2002 à 2007, elle est directrice de la stratégie de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, la SNCF, puis de 2015 à 2017, elle dirige le service des transports parisiens, la RATP. Bon, entre-temps, elle occupe d'autres fonctions, comme celle de chargée des concessions au sein du groupe privé de construction et de travaux publics Eiffage, directrice à l'urbanisme à la mairie de Paris sous Bertrand Delanoë. Elle est aussi nommée préfète de la région Poitou-Charentes en 2013 ou encore directrice du cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'écologie de 2014 à 2015. Un CV bien rempli donc, mais loin d'être celui d'une politicienne. Vous noterez que je n'ai parlé à aucun moment d'un mandat de maire, de député ou autre fonction nécessitant une élection. Elisabeth Borne n'a en effet jamais été élue et sera candidate pour la première fois lors des législatives de juin.
Et pourquoi a-t-elle donc été choisie comme première ministre ?
Eh bien, elle correspond au profil qu'Emmanuel Macron aime tant. Réputation de travailleuse acharnée dans son entourage, exigeante même, elle a aussi un profil qui contraste avec celui des habituels politiciens sortis de l'ENA, l'École nationale d'administration. Et surtout, le président avait annoncé être à la recherche d'un profil attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive. Pour le volet social, Elisabeth Borne se revendique de gauche. Elle a d'ailleurs fait partie de nombreux cabinets de ministres socialistes, comme on l'a évoqué auparavant. Et voici ce qu'elle déclarait en février au micro de BFM TV à ce propos. « Je suis une femme de gauche. La justice sociale et l'égalité des chances sont les combats de ma vie. » Bon, pour les questions productives et environnementales, effectivement, elle en connaît également la teneur. Elle a été ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, qui était son dernier poste avant l'élection. Et juste avant, elle était ministre de la Transition écologique et solidaire. Mais Elisabeth Borne, c'est surtout une ministre qui a réussi à faire passer deux réformes impopulaires sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. La réforme de la SNCF en 2018, puis celle de l'assurance chômage fin 2021. Elle a échoué en revanche à faire passer la réforme des retraites stoppée en 2020 par la pandémie, mais il s'agira sans aucun doute d'un des objectifs de la nouvelle première ministre.
Merci Léo pour cet éclairage sur Elisabeth Borne, nouvelle première ministre en France. Et on continue avec le programme et cette fois-ci, c'est la deuxième partie de l'interview avec Patrice Lecomte sur son film Maigret qui sort sur le grand écran en Australie. Une interview réalisée par notre collègue Thomas Mercier.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Ça vous intéresse vraiment que je vous raconte ma vie ?
Ça m'aide un peu à comprendre, une fille comme toi.
Elle s'appelait Louise.
Pourquoi avez-vous dit « elle s'appelait » ?
Alors j'évoquais justement la lumière et ça m'a vraiment marqué dans le film parce que vous jouez justement beaucoup avec l'ombre du commissaire Maigret.
Oui, mais la lumière m'a toujours passionné. Il y a un moment que j'aime par-dessus tout quand on prépare un film, c'est quand on va sur les décors, les repérages et tout ça avec le chef opérateur et le chef décorateur, et que tous les trois, on se pose cette question essentielle, d'où vient la lumière? Est-ce qu'elle vient de ce petit vassistas là et qu'elle va mettre ça dans... Enfin, bon, toutes ces questions qui concernent la lumière me captivent, me passionnent vraiment. Et c'est vrai que par rapport à un film comme Maigret, qui est un film un peu crépusculaire, Maigret est un peu à la fin de sa vie, il est revenu de plein de choses. Donc, il y a des zones d'ombre. Et les zones d'ombre, c'est un peu balourd de dire ça, mais c'est la métaphore des zones d'ombre, des gens qui cachent des choses, qui ne disent pas tout, qui mentent, qui dissimulent. C'est les zones d'ombre de la vie, en fait. Et Maigret est là pour... petit à petit, mettre un peu en lumière des choses qui resteraient dans l'ombre. Donc, c'est une métaphore visuelle. J'ai presque honte de dire ça parce que c'est lourd, mais enfin, c'est ça. Quoi.
Vous venez de signer votre 30e film. Êtes-vous déjà sur un nouveau projet?
Oui, il y a plusieurs trucs qui sont en route parce que je n'ai plus tout à fait 25 ans, donc je ne peux pas perdre mon temps à glandouiller. Et avant Maigret, entre Maigret et le film d'avant, il s'est écoulé 6 ans. C'est beaucoup trop, mais 6 ans pendant lesquels j'ai pas glandé. Il y a eu 4 projets de suite qui sont tombés à l'eau pour des histoires de financement. Enfin bon, c'est compliqué, c'est devenu compliqué de faire du cinéma. Enfin bon, on y arrive quand même. Et là, je suis un projet. Enfin, c'est pas un projet parce que je vais tourner en 2023. C'est une mini-série de 2 fois 52 minutes pour une plateforme qui est consacrée d'une manière assez originale et assez décalée, pas décalée non, mais originale et personnelle, à Louis Braille, l'homme qui a inventé, quand il avait 15 ans, le langage pour les sourds, pour les aveugles, pas pour les sourds, pardon, pour les aveugles. C'est nul, c'est la fatigue sans doute. Et puis je suis en train de travailler aussi sur un truc qui est sans doute un peu plus lointain, mais pas trop lointain, et qui ne sera pas un Maigret numéro 2, mais qui sera un film que j'ai envie de faire avec Gérard Depardieu. Parce que on s'est tellement bien entendu, il me dit « Quand est-ce que tu m'écris un film ?» Je dis « Bientôt, Gérard, t'inquiète pas. » Alors donc, j'ai tellement envie de filmer à nouveau cet homme-là que y a un truc qui me trotte en tête.
Depuis 40 ans, vous avez travaillé avec les plus grands acteurs français, et j'ai été surpris, mais en préparant cette interview, je me suis rendu compte que c'était la première fois que vous travailliez avec Gérard Depardieu.
Oui, c'est très inattendu en effet, parce que j'aurais pu, je ne dis pas que j'aurais dû, mais j'aurais pu travailler avec lui, mais quand on a envie de travailler un jour ou l'autre avec un acteur ou une actrice, il me semble qu'il ne faut pas s'obliger, il ne faut pas se forcer. Avec un chausse-pied pour à tout prix faire un film avec Adjani ou je sais pas qui. Et je préfère, un peu comme Maigret d'ailleurs, je préfère attendre que ça arrive et que la belle occasion soit entre mes mains d'une manière spontanée. Et quand on a écrit Maigret, on n'a pas écrit Maigret pour se dire « Ah tiens, enfin, je vais pouvoir travailler avec Depardieu », on a écrit Maigret parce que ça nous plaisait d'écrire Maigret. Et puis assez vite... c'était l'occasion rêvée de proposer quelque chose à Depardieu et de faire du cinéma avec lui.
Vous êtes un amoureux de la comédie et je suis désolé, mais je me sens obligé de vous parler des Bronzés.
Non, mais ne soyez pas désolé, je rencontre assez régulièrement des journalistes qui me disent « Bon, alors les Bronzés, on oublie. Hein. » Je dis « Comment ça, on oublie ?»« Mais vous êtes fous, on n'oublie pas les Bronzés. » Jamais, plutôt crever. Mais ça a été des films tellement importants pour moi. C'est des films... Vous vous rendez compte que je ne sais pas combien d'années plus tard, près de 30 ans plus tard, on parle encore des Bronzés, ça repasse à la télévision, ça continue à faire marrer les gens. C'est un peu comme si on avait inventé le film inusable, quoi. Et je trouve ça... Moi, je suis très fier d'avoir fait les Bronzés, vraiment très fier. Et même si j'ai fait les choses assez différentes ensuite, ça c'est vrai, jamais je ne renierai les Bronzés. C'est des films trop importants pour moi.
Mais quel exercice difficile de passer de la comédie comme les Bronzés au film d'époque, avec Ridicule ou encore du polar avec Maigret. Mais comment faites-vous pour arriver à réaliser autant de films dans des thématiques et des topics différents?
Je vais vous dire, en fait, j'ai une hantise, c'est de m'ennuyer. Et parce que si moi je m'ennuie, la deuxième hantise qui est conjointe, c'est d'ennuyer le spectateur. Et ça me terrifie. l'idée que je pourrais ennuyer les spectateurs et m'ennuyer. Donc, je préfère faire des choses très différentes les unes des autres parce que, ajouter à cela, le fait que j'adore faire des choses que je ne suis pas sûr de savoir faire. Je trouve ça extrêmement motivant. Quand on aborde quelque chose, un film ou n'importe quoi d'autre, et qu'on dit « t'inquiète pas, moi je sais, pas de problème », c'est là qu'on se plante et qu'on se prend les pieds dans le tapis. Quand on aborde quelque chose dont on n'est pas sûr, j'espère que je vais savoir, j'espère que je vais être à la hauteur, etc., c'est infiniment motivant. Je suis pas maso, hein, c'est pas ça, mais ça me pique le cul de faire quelque chose que je ne suis pas sûr de savoir faire. Voilà pourquoi.
On parle souvent de ce qui se passe devant la caméra, mais rarement de ce qui se passe derrière la caméra. Quelle a été l'ambiance pendant le tournage des Bronzés ? L'équipe technique, ça devait être une énorme famille ?
De toute façon, une équipe technique, c'est une énorme famille. C'est une famille provisoire. Je ne dis pas que c'est une famille d'accueil, mais c'est une famille provisoire. On est tous ensemble, on se voit du matin au soir, tous les jours, pendant 2 mois, et puis la préparation, etc. Et puis après, on débranche la prise et la famille, elle part dans d'autres familles, et puis on se retrouve un jour ou l'autre peut-être. Mais pour tous les films, c'est pareil. Il y a une espèce d'enthousiasme que j'essaye de communiquer, que j'arrive à communiquer, l'enthousiasme de faire un film, qui est un enthousiasme qui n'a pas de prix. Évidemment. Et sur les Bronzés, les trois films, les trois Bronzés sont des films très écrits. Il n'y a pas un demi-gramme d'improvisation, rien n'est laissé au hasard. Les acteurs sont super professionnels, ils connaissent le texte au rasoir. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire des comédies avec du rythme. C'est des films. Tant mieux si ça ne se voit pas, mais c'est des films très préparés, très préparés. Bon, évidemment, dans les Bronzés font du ski. Quand ils sont recueillis par les paysans et qu'ils boivent cet alcool impossible et qu'ils sont à bout de souffle, on marque pas dans le scénario Gérard Jugnot. Il faut bien que les acteurs aient des trucs à faire au dernier moment, bien sûr.
Et l'alcool alors, c'était du vrai ou du faux?
Non. Non, non. Alors, je sais que dans les Tontons Flingueurs, quand il y a une scène un peu similaire et à laquelle on rend hommage à notre manière, quand ils boivent, c'est du rude, c'est du fort, c'est pas de la boisson pour mon vieux, je sais pas quoi. La scène avec Blier, Ventura, Francis Blanche, dans les Tontons Flingueurs, il semblerait qu'ils aient mis vraiment un alcool très fort, genre vodka ou autre, et qu'à la fin du tournage, ils étaient torchés. Mais sur les Bronzés, non, c'était de l'eau.
Merci beaucoup, Patrice Lecomte.
Merci infiniment, Thomas. Merci beaucoup.
Merci, Thomas.
Alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Je rappelle que vous pouvez voir Maigret qui sort sur le grand écran en Australie, réalisé donc par Patrice Lecomte. Et comme je le disais, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de Radio SBS. N'oubliez pas de télécharger nos podcasts sur sbs.com.au/french. Et je vous laisse en compagnie de Bernard Lavillier qui nous interprète « Toi et moi ». Belle journée, à bientôt.
Toi et moi, on se caresse, on se dévore, on s'aimait trop, on s'aime encore. Plus de 20 ans et des alarmes, pas toujours pas. Baisser les armes, un vent solaire qui déchire le ciel noir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.